Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Suite à un malentendu de la part de quelques auditeurs que je comprends, je me dois de préciser qu'en citant Dieu, cela s'adresse pas toujours à Dieu le Père, Yahvé, Jéhovah, l'Éternel, uniquement. Mais selon le contexte des phrases, je dis bien, selon le contexte des phrases que nous citons, nous nous adressons au Dieu de la Trinité. Je répète, au Dieu de la Trinité, qui inclut Dieu le Père, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, et le Saint-Esprit. Je répète donc, pour que ce soit bien compris, selon le contexte des phrases que nous citons, nous nous adressons au Dieu de la Trinité, qui inclut Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Nous sommes donc arrivés à la troisième étude de cette petite série que nous terminons aujourd'hui. Et nous savons que de tout temps, l'amitié a été vantée. Par exemple, dans l'Ancien Testament, chez les Grecs et les Romains, cela était vraiment quelque chose de très important. L'amitié a souvent été comparée à un trésor, à une richesse. Jésus ben Sira, maître érudit qui allie la sagesse grecque et la sagesse juive, parle de l'ami en ces termes. L'ami fidèle est une protection solide. C'est celui qu'il a trouvé, il a trouvé un véritable trésor. Rien n'est comparable à l'ami fidèle. Et l'or et l'argent ne méritent pas d'être mis en balance. Donc c'était quelque chose d'important. L'ami est une protection solide, comme une toile, une toile de tente qui s'étend au-dessus de moi et dans laquelle je suis chez moi. Je m'y sens en sécurité, elle me protège de la piqûre du soleil, de la brûlure du soleil évidemment, et du froid de la nuit. L'ami est un trésor que rien ne peut mettre en balance. Il est l'or qui ne se délite pas et que nul ne peut dérober. La poétesse Anna Luisa Karsch, elle a dit elle-même, elle a dit ceci: mes amis sont le cadeau le plus précieux de mon bonheur. Aucune richesse ne m'en ferait changer. Oui, en effet, nous sommes nombreux à voir nos amis comme des trésors et à remercier Dieu d'en avoir mis de tels sur notre route. Nous les protégeons comme un or inestimable, car c'est un véritable cadeau, un cadeau qui a plus de valeur que l'or que nous pourrions mettre à l'abri dans un coffre-fort. Il en va de l'ami comme de l'or qui se révèle or dans les flammes, car il ne se fond pas, mais l'or en sort plus pur que jamais. L'ami véritable, lui, se révèle dans la détresse. L'homme d'État romain qui était Cicéron, il le savait très bien. Il nous a laissé ces mots devenus très célèbres: Amicus certus in re inserta signitur. C'est dans le malheur qu'on reconnaît son véritable ami. C'est d'abord dans le malheur que se manifeste l'ami authentique. Il est aux côtés de celui qui souffre et traverse avec lui les difficultés et la détresse. La souffrance est comme le feu qui transfigure et qui purifie l'or. Chers amis, la nature n'offre-t-elle pas des trésors à profusion? Combien sommes-nous à ne pas pouvoir nous rassasier d'un beau paysage, à nous arrêter en chemin pour admirer des fleurs, des graminées, un papillon qui s'y repose, car nous avons appris à nous étonner. Le mot grec « taumazain » signifie « s'étonner ». Mais aussi être surpris, s'émerveiller, et cela a donc affaire au mot qui est merveilleux, qui veut dire le miracle. S'étonner veut donc dire s'extasier devant une merveille de la nature. Dans les épis, par exemple, je vois le merveilleux, on peut dire, oui, je vois la merveille que le blé porte. Dans l'arbre, par exemple, je vois celle des fruits qu'il produit. Et que dire devant celle d'une forêt de hêtres qui rappelle, en quelque sorte, une cathédrale gothique? Mais je ne perçois pas seulement les miracles de la nature en regardant et en m'étonnant, et en même temps j'admire, mais pour ainsi dire, je les vis. Nous pouvons arriver à vivre ces merveilles. Par exemple, lorsque je me sens porté par elles, la nature, elle recèle quelque chose de maternel. Quand je m'étends l'été dans une prairie, plus à mon très grand âge, mais autrefois, je me sens en sécurité. Je me sentais vraiment en sécurité. Évidemment, ce n'est plus pareil aujourd'hui. Les temps ont changé. Et la nature ne porte aucun jugement de valeur. Car dans la nature, j'ai le droit d'être tout simplement ce qui me libère et me permet d'entrer en contact avec moi-même. Je cesse donc de me mesurer, de m'évaluer. Je peux profiter de la nature et me débarrassant de toute contrainte. Je suis donc libre de me couler en elle parce que je laisse, ou plutôt j'ai laissé de côté, toute surestimation ou toute dévalorisation de moi-même. Au printemps, je perçois le réveil d'une vie toute nouvelle, non seulement de la nature, mais aussi en moi-même. Je découvre en moi le mystère de la résurrection. Je sens que la vie y est plus forte que la mort, qu'elle fait éclater ce qui est figé, que l'amour finit par l'emporter sur la mort. Parce que, en fin de compte, la vie jaillissante que je rencontre dans la nature est identique à l'amour. Chers amis, J'entends souvent des gens me confier que dans la nature, ils ont le sentiment d'être aimés, que l'amour les inonde à travers les fleurs et les arbres. Ils perçoivent l'amour de Dieu, oui, l'amour du Créateur. Et cela est quelque chose d'inestimable. Chers amis, tout devient une image pour nous. Nous pouvons trouver l'or de notre vie en toute chose pour peu que l'on porte sur elle un regard étonné, contemplatif. Il s'agit pour moi de faire un avec ce que je regarde et je me découvre alors moi-même et le mystère de ma vie dans tout ce que je contemple. Je découvre l'infinitude de Dieu, je découvre sa main qui me retient quand je tombe. La chute des feuilles, par exemple, cela me rappelle ma propre finitude. Mais celle-ci ne me fait pas peur, car en tombant, les feuilles m'invitent plutôt à lâcher du lest, à relâcher mon ego qui ne parvient pas à décrocher. Je sens la main de Dieu infiniment douce qui me retient et me porte, et je ne crains plus la mort, car cet exercice que je pratique chaque soir de m'abandonner à la main de Dieu pour trouver protection et sécurité, eh bien ceci deviendra réalité dans la mort. Je serai alors et pour toujours recueilli par sa main douce. Je ne tomberai pas, car je serai retenu par la main paternelle et maternelle de Dieu. Chers amis, pour la Sainte Bible, Dieu est le trésor authentique. Il est l'or qui enrichit notre vie. Et qui, c'est l'or surtout qui enrichit, excusez-moi, notre vie. Alors je répète, parce que il faut que je dise les choses en les traduisant parfois de l'allemand, mais sans non plus écorcher le français. Donc pour la Sainte Bible, il est clair que Dieu est le véritable trésor authentique. Et c'est l'or qui enrichit, notre vie. C'est un enrichissement, la Sainte Bible, tout ce qui se trouve dans la Sainte Bible est un enrichissement pour notre vie. Par exemple, dans sa prière, le psalmiste a dit « Tu as mis plus de joie dans mon cœur qu'au temps où leur froment et leur vin nouveau abondent. » Psaume chapitre 4, verset 8. Donc, Dieu est notre véritable trésor, car il nous fait don, oui, il nous fait don de tout ce dont nous avons besoin pour notre vie. N'est-il pas vrai ce que je viens de dire? Bien sûr, vous direz, oui, mais je suis pas très riche, plutôt pauvre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une personne qui était mourante à l'hôpital d'un cancer généralisé. Cette personne a dit, elle était, heureusement pour elle était très riche, par un important héritage. Et elle a dit, je donnerai tout ce que je possède. Ça veut dire toutes ces richesses qu'elle possédait pour avoir à nouveau la santé. Simplement avoir la santé. Elle savait qu'elle pourrait, avec la santé, travailler, survivre, même si ce n'est pas aussi riche qu'auparavant. Mais elle savait cela, que la santé était plus importante que son grand héritage qu'elle avait reçu. Le psalmiste dit aussi que Dieu lui-même est le fondement de notre joie, indépendamment de ce qu'il nous offre. Sentir Dieu nous procure beaucoup plus de bonheur qu'un repas au mets et au vin délicieux. L'expérience de Dieu comble notre désir profond lorsque nous sentons Dieu notre Père. Notre cœur alors est empli de joie. Nous disposons de tout, absolument de tout, ce dont nous avons besoin. La question est de savoir où et comment nous pouvons sentir Dieu. Cette expérience est toujours un cadeau. Nous ne pouvons y accéder par la force, mais pour qu'elle nous soit donnée, nous devons être dans un certain état d'esprit. Nous devons être attentifs et ouverts, par exemple. Si j'ouvre les yeux pour contempler la nature, je ne dois pas simplement voir ce qui se présente à mon regard, mais plus profondément, afin de reconnaître Dieu en toutes choses. Car Dieu pénètre la nature, il me parle à travers tout ce que je rencontre sur mon chemin. Tout ce que je vois peut devenir un symbole de Dieu. Jésus nous en donne l'exemple lorsqu'il se désigne par certaines images. Il est tantôt la porte, il est tantôt la source de vie, et il est tantôt la manne qui descend du ciel, ou encore le véritable cep de vigne. Dans tout ce que nous regardons, nous découvrons en fin de compte le mystère de Dieu et pouvons en toute chose percevoir sa présence. Que nous sentions sur nous le souffle du vent et nous pouvons imaginer que Dieu nous caresse, pourquoi pas? Que nous laissions le soleil nous réchauffer de ses rayons et ses... À mon avis, l'amour de Dieu qui pénètre notre corps. Que nous admirions un ciel étoilé, alors nous entrevoyons la majesté et l'infinie grandeur de Dieu. Sa présence aimante, elle est salvatrice et elle nous étonne. Que nous allions dans le monde, nous sentons l'amour divin nous envelopper toujours et partout. La proximité de Dieu qui nous entoure nous libère de celle parfois trop présente, qui est trop pesante par les gens qui ne nous veulent pas forcément toujours du bien, ou qui attendent toujours trop de nous. Par contre, la proximité bienfaisante de Dieu, elle nous protège. Mais Dieu est aussi le trésor en nous. Il n'est pas seulement le créateur de l'univers auquel il insuffle son esprit, mais il habite en nous personnellement par l'Esprit Saint. Jésus lui-même nous dit « Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Saint Jean, chapitre 14, verset 23. Si nous sommes attentifs à nous-mêmes, nous constatons que nous ne rencontrons pas nos seules pensées et nos seuls sentiments, ni non plus notre véritable moi, mais que nous rencontrons aussi Dieu, Dieu qui habite au tréfond de notre âme. Ou comme l'apôtre Paul l'a énoncé, il a dit « Je vis, mais je ne vis non plus que moi tout seul, mais c'est Christ qui vit en moi. » Galates chapitre 2, verset 20. Chers amis, Dieu ou Jésus-Christ au plus intime de mon âme, voilà donc le vrai trésor, oui, voilà l'or précieux que je porte en moi et qui donne de l'éclat à ma vie. Mais je ne peux le posséder, je ne peux le disposer ou disposer de lui à mon gré, qu'il ait pris demeure en moi est un mystère au fond. Mais le fait que je le sache, cela modifie le sentiment que j'ai de moi-même. Je suis comme un ostensoir qui porte Jésus. Ou bien je ressemble à Saint Christophe, le porteur du Christ, mais je ne le porte pas comme lui, sur une épaule. Oh non, non, je le porte en moi. Alléluia. Peut-être vas-tu penser, j'aimerais bien percevoir ainsi les choses, mais je n'ai jamais fait cette expérience-là. Certes, on ne la fait pas sur commande, cette expérience, mais essaye un peu de regarder le monde avec les yeux de la foi, sans oublier que croire ne signifie pas que tu dois avoir foi en tout ce que je te dis et y acquiescer. Pour Jean l'évangéliste, croire est une nouvelle manière de voir. Pour lui, cela consiste à voir l'infinitude de Dieu dans la finitude de l'homme Jésus, à contempler dans la chair la gloire de Dieu. Alors, chers amis, mon cher ami, regarde simplement la nature avec ses yeux, avec tes yeux là, et tu reconnaîtras Dieu en tout, car il est le fondement de toute existence et nous environne. Saint Luc, il voit les choses ainsi quand il fait dire à l'apôtre Paul, prêchant sur l'Areopage d'Athènes, car c'est en lui que nous avons la vie et le mouvement et l'être. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. Oui, regarde les êtres que tu rencontres avec les yeux de la foi. Que vois-tu? Je te le demande. Vois-tu seulement ce visage que tu connais bien, dont tu t'es déjà fait une image figée? Ne vois-tu pas en cet homme que tu regardes, ne vois-tu pas un mystère encore plus grand que lui? Quand nous regardons l'autre, que ce soit un homme ou une femme, il nous faut aller au-delà de son apparence extérieure pour découvrir le Christ en lui. C'est le noyau divin. Dieu lui-même y habite. Et maintenant, tourne vers toi le regard. Essaye de croire qu'au tréfonds de ton âme, tu rencontres quelque chose que tu ne peux saisir, un mystère plus grand que toi-même. Essaye de croire que le Christ demeure aussi en toi. Tu ne peux pas t'en vanter, ni te placer au-dessus des autres, mais si tu l'entrevois dans le calme et la méditation, alors tu verras toi-même différemment. Tu seras libéré de tes peurs et de tes doutes et tu rendras grâce à Dieu d'habiter maintenant en toi. Tu sentiras ta propre valeur intérieure, car au fond de ton âme, mon cher ami, Dieu recouvre ta vie d'or et fait de toi un être infiniment, on peut bien le dire, infiniment précieux. Cher ami et chers amis, un navire souhaite prendre la mer car il le fait pour voguer, pour voyager. Un bateau sans la mer n'est au fait pas un véritable bateau. Il en va de même avec l'âme humaine, qui elle aussi aspire à ce pourquoi elle est destinée. Ne faire que un avec Dieu, c'est cela que l'âme est destinée, c'est de faire qu'un avec Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Se remettre donc en quête de Dieu, tel est l'or qui recouvre notre âme. L'homme est essentiellement un être qui aspire à Dieu. Dieu souvent, nous ne pouvons le percevoir, mais nous pouvons sentir le désir que nous avons de lui. Ce désir est la trace qu'il a gravée en notre cœur. C'est une trace dorée qui rend notre vie précieuse. Dieu se trouve déjà dans le désir que nous avons de lui. Dans le désir, nous touchons comme une étincelle de Dieu en notre cœur. Pour bien des poètes, le désir de l'homme fait sa véritable valeur et le couvre carrément d'or. J'aimerais ne citer que trois de ceux-là. Écoute bien. L'écrivain Marcel Proust, 1871 à 1922, a dit un jour, le désir fleurit, la possession flétrit toute chose. Je répète ce qu'il a dit, le désir fleurit, mais la possession flétrit toute chose. Si je regarde une rose avec désir, je vois en elle son éclat. Je me rappelle les gens qui m'en ont offert une pour me dire leur amour. La rose que je contemple avec désir, elle fleurit pour moi, elle fleurit pour moi d'une autre manière. Ce n'est pas seulement une rose maintenant, une rose quelconque, non, non, non. Mais c'est une fleur qui recèle en elle le mystère de l'amour. Et même quand je regarde un paysage avec désir, je vois la sécurité et le refuge qu'il m'offre. Je vois que je fais partie intégrante de la création. Et soudain, oui, soudain, sa beauté m'apparaît et je perçois un soupçon de la beauté tout court, de celle qui est un attribut de Dieu. Je répète, et soudain, sa beauté m'apparaît et j'aperçois un soupçon de la beauté tout court, c'est-à-dire de celle qui est un attribut, un véritable attribut de Dieu le Père. Arthur Schnitzler, 1862 à 1931, écrivain et médecin autrichien, a quant à lui écrit ceci. Le désir est ce qui nourrit notre âme et non l'assouvissement. Nous associons à l'âme l'immensité, la liberté, l'entrain et la spiritualité. L'âme veut respirer. Le désir est comme la respiration et la nourriture de l'âme qui prend alors de l'ampleur et qui s'élève au-dessus de l'étroitesse du monde d'ici-bas pour parvenir là où elle se sent chez elle. Oui, c'est vraiment dit avec beaucoup de sentiments, de raisonnements et de vérité. L'expérience de l'assouvissement est aussi importante pour l'âme. L'âme a besoin de lieux où elle peut s'épanouir, où elle peut ne faire qu'un avec Dieu et avec tout ce qu'il est. Mais elle a besoin aussi du désir pour pouvoir aller de l'avant, car l'unité qu'elle ressent parfois est éphémère et elle ne cesse de se dérober. L'âme n'est totalement une en Dieu que dans la mort. Tant qu'elle vit ici-bas, elle a besoin du désir de poursuivre son cheminement intérieur. Le désir est comme la manne qui tombe du ciel pour nourrir et pour fortifier l'âme sur son chemin des gouffres terrestres au sommet céleste. Chers auditeurs, nous sommes lancés ensemble pendant cette petite série avec ces CD à la recherche de l'or intérieur. J'espère maintenant que mes réflexions vous ont inspiré et fortifié, incité à entreprendre votre propre quête. Vous allez certainement découvrir en vous de nombreux gisements qu'il va être utile d'explorer. De même que l'or, je veux parler du minerai. L'or peut se trouver dans la roche, dans l'eau, dans la poussière ou dans les profondeurs de la terre. Vous décelerez aussi l'or intérieur, cet or intérieur dans votre vie quotidienne, oui, dans la poussière de tous les jours, dans les livres empoussiérés, dans l'eau du subconscient dans laquelle vous plongez dans vos rêves. Et vous pourrez également extraire l'or du tréfonds de votre âme. Mais vous y aurez accès, comme nous le dit Jésus, dans la parabole du trésor dans le champ, que si vous osez vous aventurer dans la fange que vous découvrirez parfois aussi en vous-même, par exemple dans la cupidité, dans la passion, dans les émotions ou les pensées négatives et dans les complexes, nous pouvons trouver de l'or dans tout ce qui est en nous. Ces CD, chers amis, sont destinés à vous encourager à chercher l'or partout en vous, dans votre vie, dans votre entourage, où que vous soyez. Vous le trouverez et vous vous apercevrez que vous portez en vous un éclat d'or parce que vous avez part à la vie divine. Alléluia. C'est parce que il savait cela, que les peintres du Moyen Âge représentaient toujours leurs personnages sur un fond d'or, afin que l'éclat divin rayonne à travers tout ce qui est humain et que chacun puisse en faire l'expérience. Amen. Et chers amis, nous allons terminer cette courte étude finale de cette petite série par la prière et je vous mettrai quelques chants d'un lointain passé qui ont été chantés par une chanteuse qui faisait partie de l'église baptiste américaine, qui s'appelait Mahalia Jackson. Elle est maintenant vers le Seigneur, où nous la rejoindrons, dans mon cas, très bientôt. Prions. Ô Dieu, qui est le Dieu fort et miséricordieux, qui te souviens de tes enfants pour leur faire du bien, combien nous avons besoin que tu nous dises, comme autrefois aux Israélites, n'oublie pas, et que tu nous rappelles les grâces que nous sommes si prompts à oublier, que nous n'oublions pas, Seigneur, les ténèbres du péché d'où tu nous as tirés, et moi y compris, pour nous amener à la merveilleuse lumière de ta grâce et de ton évangile. Que nous n'oublions point les choses que nos yeux ont vues et que nos oreilles ont entendu de ton amour et de ta miséricorde envers nous tout au long de notre vie. Oh, si nous savions compter tes bienfaits comme nous savons nous plaindre de chaque difficulté, de chaque épreuve, de chaque épine qui vient à la traverse de notre volonté. Que la pensée de toutes ces misères soit absorbée pour nous dans celle de la délivrance et de ton amour infini. Pardonne, ô notre Père, notre ingratitude, notre incrédulité, nos murmures si fréquents. Apprends-nous à conserver le souvenir de ta miséricorde qui demeura toujours et à n'oublier que les choses qui sont derrière nous et qui peuvent nous entraver dans notre carrière chrétienne. Exauce-nous dans ta bonté pour l'amour de notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et chers amis, maintenant, je vais essayer de vous mettre ces chants de Mahalia Jackson, d'un temps bien révolu maintenant, évidemment. C'était en 1967 qu'elle avait chanté cela. Que le Seigneur vous bénisse par ses chants. Thank you.
Precious love. coming my way. Grove Street, precious Lord, won't you linger near? And when my life is on most long, I want you, please, hear my cry and hear my thank you.